Salut Marie.
Coucou.
Ça va?
Ça va et toi?
T'as fait bon voyage?
Tout à fait, ouais. Bon, je me suis un peu perdue à la toute fin. On y va pour pas trop le faire patienter,
ouais, ouais,
si
ouais,
nous apporte
ça. On tourne. Je te suis. On prend le lieu.
France Culture.
Oui.
Oui, c'est Marie Richaud, Culture. Ok, merci.
Le Book Club.
D'accord, je pense.
Dans la bibliothèque de René Friedman.
Bonjour, Marie Richeux. Enchantée, merci.
Marie Richeux.
On avance ?
René Friedman est médecin. Sa carrière d'obstétricien et gynécologue a été consacrée aux évolutions scientifiques majeures de la procréation assistée médicalement. Premier bébé éprouvette, fécondation in vitro, prise en charge globale des questions d'infertilité, il a exercé en France et parcouru le monde pour explorer toujours et encore le mystère des naissances et de la fabrication des petits d'hommes. Il est né en 1943 au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale et des Pyrénées, caché dans une famille reconnue ensuite juste parmi les nations. Autour de lui, on parlait yiddish. Ce premier bain de langue, on en retrouve trace dans le choix de texte qu'il se propose de partager avec vous aujourd'hui. Pas uniquement parce qu'il choisit un roman traduit du yiddish, mais aussi par l'importance qu'il semble donner à la sonorité des mots. Lorsqu'il était enfant, et toujours aujourd'hui, les mots le fascinaient. Le choix d'un plutôt qu'un autre, les éclats poétiques que cela peut produire, et cela même s'il rencontrait des difficultés à les orthographier. Il dit qu'il vit et a vécu une vie de couleurs. Dans leur appartement, les grandes toiles de sa femme Monique Friedman ornent les murs et les rayonnages de la bibliothèque sont partagés entre ses livres à elle et ses livres à lui. Dans ses lectures, on note autant d'attention portée à la singularité de tous les vécus humains qu'à ce qu'il appelle l'universel. Suivons René Friedman dans les chemins de sa bibliothèque et notez au passage que vous pouvez aussi l'entendre longuement dans 5 entretiens à venir.
Maintenant ?
Ouais,
ah ben,
pour commencer.
Bon, on peut commencer comme ça. Bah, ça, c'est une des bibliothèques.
Ok.
Parce que à Paris, l'appartement étant ainsi fait qu'il y a une bibliothèque, mais j'en ai 4 autres.
Dans un autre endroit.
Un autre endroit.
D'accord.
À la campagne.
Ok. Parfait.
Donc ça, c'est plutôt mon bureau bibliothèque. Voilà. Et voilà, il est partagé avec les livres de mon épouse.
D'accord.
On a hérité des parents, des amis et de nos histoires. Parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Non, mais c'est vrai.
Ouais.
Et en fait, on a ramené tous nos bouquins depuis l'âge de 20 ans. Quoi.
Okay.
Donc, c'est pour ça que là, c'est une petite partie.
Vous avez, vous avez fait une place égale ?
Non, c'est mélangé. C'est
mélangé.
Non, c'est mélangé. Non, c'est tout à fait mélangé.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des livres qui sont là et d'autres livres qui sont à la campagne ?
Alors là, c'est plutôt les livres d'art, comme vous voyez, puisqu'elle est peintre. Et comme on les protège un peu au point de vue température et attention, puis on les regarde assez souvent. Voilà. Et puis là, c'est la Pléiade, puis des romans plutôt valeureux, on va dire, qui ont de la valeur plutôt.
Voilà. Quel genre de valeur ? Valeur d'histoire ?
Des valeurs de nos histoires, c'est-à-dire qu'on a lu quand on était plus jeune, qu'on a relu, qui nous ont marqué, dont certains, je vais vous en lire quelques passages tout à l'heure, mais voilà, c'est un peu ça. Bon, après, ça s'accumule avec tous les bouquins qui sont sortis, il faut bien qu'on mette quelque part. Et puis, comme je ne peux pas me séparer d'un livre, alors...
Ah, vous faites partie de ces gens-là ?
Ah ouais, c'est impossible.
Ok. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste un tout petit peu plus sur la conversation qui a... Ou je ne sais pas si ça s'est fait dans une conversation, mais comment vous avez choisi ? Parce que ce n'est pas non plus une immense bibliothèque. Vous avez gardé un nombre assez restreint de romans. Comment avez-vous décidé de ceux qui avaient ou non de la valeur ? Comment ça s'est fait ? On peut en dire quelques...
Par rapport à ce qui nous ont marqué, par exemple, et certains vont être pris tout à l'heure comme Glisson, comme Beauvoir, comme... Tout ça, là, les quelques poésies aussi, il y a cette partie-là aussi, qu'on est là,
qui vient compléter.
Là, c'est la poésie, du coup ? C'est plutôt la poésie que j'ai mis là,
okay.
Enfin, quelques livres de poésie.
Avec une merveilleuse banquette. Vous l'utilisez ou elle est juste là pour faire beau ?
Non, elle est non seulement une banquette, mais c'est une banquette qui fait lit.
Ah ouais.
Donc, quand on a des amis ou des enfants...
C'est sympa.
Voilà, ça fait partie de l'occupation du bureau. Et puis, alors, vous ne me posez pas de questions sur mes petits soldats de plomb?
Bah, j'allais y venir. J'allais y venir, mais ouais. Allez-y, je vous en prie, René Friedman.
Non, non.
Parlez-nous des petits soldats de plomb qui...
Enfin, ils sont pas petits, d'ailleurs. Hein. Ils sont pas petits. Hein,
parce il y en a des petits, quand
sont...
même.
Oui, mais la plupart sont grands. Ils sont... C'est une taille spéciale. Et c'est l'armée napoléonienne qui me défend. Toujours.
Bah, qui défend vos bouquins, surtout, là, j'ai l'impression.
En plus, et puis moi, par la même occasion.
Ok.
Voilà, donc je les adore, et je suis pas un collectionneur absolu, hein, mais...
Il y en a quand même quelques-uns.
Il y en a quand même quelques-uns.
On va dire qu'il y en a une petite cinquantaine, quarantaine.
Ouais, c'est ça.
Petite quarantaine.
C'est ça.
Ça veut dire qu'ils tiennent la garde devant Montaigne, Mallarmé, y a qui là-haut, Claude Lévi-Strauss, Kafka...
Voilà. Stéphane Zweig.
Stéphane Zweig, Claude Simon. Il y a trois romans de Claude Simon que vous avez gardés.
Alors, est-ce que je les ai tous lus? Je me suis posé la question.
Moi, je ne sais pas.
Ben non, bien sûr, vous ne pouvez pas savoir. Même moi, je ne sais pas. Mais je pense que je ne les ai pas tous lus.
Ben oui.
Et surtout la Pléiade, là, qui est quand même un monument à lire. Mais voilà, c'est agréable aussi de se savoir entouré de bouquins, de sentir de temps en temps leurs odeurs, leurs parfums.
Et puis, si vous ne les avez pas tous lus.
Et puis, de pouvoir les tirer quand ils sont là, qu'on a envie de lire un passage.
Voilà. Ce que vous faites volontiers?
Ce que je fais volontiers, surtout pour la poésie.
Surtout pour la poésie.
Surtout pour la poésie.
Vous voulez qu'on jette un œil sur le rayon poésie?
Si vous voulez.
Allez.
Si vous voulez.
Vous êtes aussi protégé par deux énergumènes, des tigres ou des chats?
Ouais, c'est des chats-tigres qui viennent d'Afrique. C'est la république, l'ancienne république du Bénin d'Ahomey. Qui travaillait le fer, et donc c'est des léopards, en fait. C'est des léopards royaux. Donc ils sont là pour... voilà.
C'est pour vous faire roi. Mmh, ils vous protègent.
Oui, ils sont plutôt sympathiques.
D'accord.
Voilà, donc là, j'ai pas mal de livres qui tapent un peu sur tous les pays. Bon, maintenant, ça fait longtemps que je les ai pas rangés. Ouais, ils sont encore comme ça. Mais j'aime bien, je m'aperçois que c'est difficile d'avoir des lectures, des livres trop gros. Bah, à part les livres d'art, évidemment.
Avec trop de pages, vous voulez dire.
Ah, oui. Parce que d'accord. Ça demande une attention longue. Je lis un peu lentement et du coup, ça m'handicape un peu. Mais bon, ça va se guérir.
Et il y a de la place dans votre vie quotidienne pour la lecture?
Ah oui, bah surtout maintenant. Avant, je lisais beaucoup mes scientifiques. Mais depuis un an, là où j'ai quand même levé le pied, oui. Mais j'aime bien aussi les autres formes d'expression. Enfin, je veux dire par là, l'image, le cinéma, le théâtre, tout ça. Mmh. Donc j'essaie de répartir un peu tout ça.
Et au cœur battant de votre vie professionnelle, il restait un peu de place pour autre chose que de la littérature scientifique?
Oui, d'abord, surtout en vacances, surtout dans les moments de détente le week-end, non, ou le soir. M'endormir avec quelques mots en tête, bien.
Vous l'avez toujours fait?
Oui, parce que, alors, il y a une histoire, je me disais, quand j'étais jeune ado, chaque soir, il fallait que je lise une page du dictionnaire.
Obligé?
Je m'obligeais moi-même.
Ah, vous-même?
Oui. Okay. À lire une page du dictionnaire pour apprendre la langue française qui n'était pas forcément parlée couramment dans mon milieu familial. Mmh. Et puis parce que je trouve que les mots, et vous le verrez d'ailleurs encore une fois dans le choix que j'ai fait, le choix des mots me fascine. La créativité des mots, l'agencement des mots, le sens des phrases, mais aussi les sonorités des mots me fascinent.
Est-ce que vous voulez bien rappeler les langues qui étaient parlées autour de vous? Puisque vous dites que c'était pas la langue française.
Du yiddish.
Ouais.
Mes parents étaient juifs d'origine polonaise. Et donc, parlaient entre eux le yiddish. Mmh. Donc, je comprends le yiddish, mais je ne le parle pas. Ou de temps en temps, des mots me reviennent. Et puis, j'aime beaucoup toutes les langues étrangères. J'aime apprendre des langues, quelques mots. J'ai toujours été assez attiré, quoi.
Mais votre bain linguistique, c'était le yiddish?
Ben oui.
Ouais. Est-ce que vous avez connaissance de, par exemple, la poésie yiddish? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a attiré, intéressé?
Quelques livres de... Oui, une grande littérature yiddish des Pays de l'Est, bien sûr. Bien sûr.
Est-ce qu'il y a d'autres endroits où il y a des livres ou c'est principalement dans ce bureau?
Là, vous êtes au centre.
Okay.
Vous êtes au centre.
Très bien. Ben, on va passer à votre choix, alors.
prends soin, nous prendrons soin. Des fleurs accrochées au mur blanc de la courette sous la mousse, tu sais, les fleurs dont on ne sait pas le nom, nous prendrons soin de la maison. Nous passerons le temps qui pousse, comme une liane qui pousse tout le temps, comme la mousse de la courette au mur tout blanc. Nous prendrons soin de la maison.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de René Friedman. Marie Richeux.
Vous avez précisé tout à l'heure que ça ne parlait pas français autour de vous. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que l'apprentissage de la lecture a laissé des traces en vous, à l'école? Vous avez un souvenir de ça?
C'est-à-dire que j'étais nul en orthographe. Voilà, pour parler les choses clairement, j'ai vraiment une difficulté à... que j'ai eu tout le temps, mais qui m'a pas empêché de progresser quand même. Mais quand même, c'était toujours un poids sur les épaules. Peut-être, alors j'ai tendance à penser que ça vient de là, mais peut-être pas. Voilà.
Mais le fait de pouvoir déchiffrer des histoires, de pouvoir lire tout seul, c'est quelque chose qui vous a plu ?
Ah oui, non, mais ça je lisais tout le temps. C'est-à-dire que ma mère lisait le français, des romans en français. Mon père non, et j'ai mon frère qui lui avait été inséré dans la société, mais et donc lisait beaucoup en plus. Mais moi j'avais mes propres lectures d'enfant et voilà, et puis mon dictionnaire le soir.
Vous avez lu quoi par exemple qui vous aurait marqué dans l'enfance ou dans l'adolescence?
Bien sûr Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, les trois mousquetaires, 20 ans après, le vicomte de Bragelonne, poursuivre ça, et puis même on va reprendre Flaubert, les grands classiques, quoi. J'ai toujours aimé la sonorité des mots et les vers, les résonances.
Elle lisait quoi, votre mère?
Elle lisait plutôt Samuel Puisard, mais elle lisait quand même quelques classiques aussi. Elle lisait des romans assez simples.
Tout à l'heure, vous avez dit que quand vous travailliez, il y avait place pour la littérature scientifique et que c'était une grande lecture. Ouais, qu'est-ce que c'est comme, je sais pas, comme vie de lecteur de se tenir en permanence au courant de la recherche scientifique, des avancées, des contributions de ses collègues? Quel genre de rapport au texte c'est? C'est différent,
non,
quoi.
C'est très différent. Ça donne pas du tout le plaisir. Il n'y a pas de plaisir. C'est pas le même plaisir. Il y a
c'est
un plaisir.
C'est informatif.
Oui, et puis c'est réflexif, parce que ça vous renvoie à des questions, vous faites une analyse, vous faites des questionnements sur ce qui est fait, c'est la justesse ou pas la justesse des résultats, ou de l'idée qui est émise, mais c'est pas du tout vous relisez pas pour le plaisir, quoi, à la différence d'une lecture romanesque ou poétique.
On vous a demandé, comme à tous nos invités, de choisir 5 textes qu'on appelle des textes étapes. Qu'est-ce qui vous a fait les choisir? Ça a été quoi votre critère de choix, René Friedman?
Je ne sais pas, c'est devenu assez spontanément. J'aurais pu en faire plus. Hein. C'est évident, ça ne résume pas tout ça, mais je ne sais pas. C'est devenu assez. Alors, peut-être parce que chacun évoque quelque chose, mais il y en a d'autres, bien sûr. Et voilà, je ne sais pas, c'est venu très, très naturellement.
Lequel vous est venu en premier ?
Alors, en premier, j'avais envie de prendre celui-là, celui qui est sans doute le moins connu, hein, qui est celui de Laim Rochman, justement, parce que. Qui a écrit Un pas aveugle de par le monde. Il fait partie de la littérature fantastique yiddish. Et il est publié par De Noël et il est traduit par Rachel Hertel, qui est la grande traductrice des auteurs juifs des pays de l'Est qui écrivent en yiddish. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup. J'ai lu avec une espèce de. Devant sacré, je sais pas, c'est parce que c'est assez étonnant ce bouquin qui ne raconte pas une histoire particulière et qui raconte quand même toutes les histoires du monde et en particulier les grandes disparitions, bien sûr, mais avec des mots relativement simples, mais quelque chose qui est très touchant parce que il y a une espèce d'envolée lyrique, fantastique, fantasmatique et en même temps qui repose sur du réel. C'est un ressenti très fort.
Vous l'avez découvert quand ce livre ?
Oh, il y a à peu près, j'ai envie de dire, une dizaine d'années. Une dizaine d'années, ouais.
Vous nous lisez le passage ?
Ouais, je vous lis le passage. Alors, juste pour resituer ce passage, parce que sinon on n'y comprend rien, hein, je veux dire. En fait, ça se passe à Offenbach, qui est une ville en Allemagne, qui, dans la réalité, a été un endroit où, après la guerre, après la défaite nazie, toutes les œuvres d'art, y compris les livres, mais aussi les peintures, étaient rassemblées par les Américains et par les armées victorieuses pour les conserver et les retrouver. Donc c'est un lieu déjà particulier, qui s'appelle Offenbach, qui plus est. Et donc, il a écrit dessus, j'ai choisi ce passage parce que je trouvais que c'était... Enfin, je sais pas, ça m'a plu, quoi. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est qu'il y a un respect très particulier, je sais pas si vous connaissez, dans l'histoire juive, sur les livres. C'est-à-dire que les textes sacrés, premièrement, on ne les touche pas. On a une espèce d'instrument avec un doigt, souvent en argent, j'en ai un d'ailleurs. Voilà, qui est là, qui permet de suivre le texte ne pas toucher le livre. Et deuxièmement, les livres, on peut jamais en jeter. Et lorsqu'ils sont vieux au point d'être décatis et tout ça, on fait une cérémonie, on les enferme dans une pièce qui s'appelle une genitza. Et au moment où on en a suffisamment, on va les enterrer. Donc il y a une cérémonie où on enterre les livres, mais qui ne disparaissent jamais. Voilà, donc c'est quand même une tradition.
Comment ça vous a été transmis, ça ? C'était autour de vous culturellement, quoi ? Dans votre famille, c'est des choses qui se disaient.
D'abord, vous savez, j'avais cette image que j'ai toujours, d'ailleurs, atroce, des livres qu'on brûlait, que les nazis brûlaient. L'autodafé, vous connaissez, de tout temps, d'ailleurs. Il n'y a pas eu que les nazis, mais enfin, je veux dire, ils ont été forts là-dedans. Et donc, j'étais sensible à ce respect des livres, qui sont le respect de la tradition. Alors, il y a la tradition orale, mais la tradition orale, elle est quand même variée. La tradition écrite est plus dans la transmission et la nécessité d'une transmission qui, bien sûr, nécessite des exégèses, des compréhensions, des interprétations, parfois des contradictions. Mais quand même, ça donne une base beaucoup plus du réel de ce qui est écrit, voire des commentaires.
Et vous avez vous-même été ou êtes encore dans l'étude de ces textes-là, René Friedman ? Ça vous occupe ?
Non, en fait non. Je lis pas les textes sacrés
ou le Talmud
ou la Torah. Mais je ne fais pas d'études de ce niveau-là. Mais voilà. Mais j'ai gardé. Je pense que j'ai en moi ce respect pour les livres et cet attachement pour les livres. Revenu à Offenbach, le docteur Schetter déballait ses livres et ses objets sacrés. Il les caressait longuement dans ses paumes, les époussetait. Ceux qui avaient souffert d'eau et du froid, il les réchauffait de son haleine. Sur ceux qui avaient connu les feux des bûchers, il soufflait pour les refroidir. Peu à peu, il commença à sortir des livres emprisonnés des caisses clouées. Il les caressait, il les libérait des coffres où il les avait emprisonnés par leurs geôliers pour les classer dans l'immense bâtisse. Il tenait entre ses mains un petit psautier d'impression récente. La page de titre manquait, mais il y entendait le chant des hymnes. Les mélodies coulaient dans tout son corps, comme si elles y prenaient naissance. Les paroles aussi semblaient être de lui, et elles s'ouvraient à lui pour la première fois. Il eut le sentiment que la salle allait s'emplir de chants. C'étaient les livres qui diffusaient cette musique. Chacun produisait sa propre mélodie. Les livres joueront comme des cordes, selon le rythme de leurs phrases. Ils chanteront tous ensemble, uniront leur chant intérieur, il sera lui le chef d'orchestre, ensuite les mots s'envoleront, restera leur musique, elle emplira l'espace et lui le vieux docteur Schetter se laissera porter. Les livres sentirent que la mélodie était désormais leur respiration et qu'ils la garderaient toujours. Ils craignaient qu'avec elle, leur âme ne s'envolât. Ils resteraient vides alors. Peut-être le chant était-il leur ultime confession avant de mourir. Chacun sentait battre son pouls. Il entendait couler des océans de musique en eux. Les mots, leurs digues, pouvaient être emportés par les flots. Ils essayaient de se maîtriser. Ils avaient besoin d'aide pour empêcher le flux d'emporter leurs paroles. Jadis, leur savoir était enfermé dans des têtes pleines de Torah. Les têtes avaient été anéanties. Leur mystère restait enfoui en eux seuls.
Extrait de « À pas aveugle de par le monde » de Leib Rochman, paru en yiddish en 1968, et vous mentionniez le travail important de la traduction de Rachel Hertel. On entend là aussi des têtes remplies d'histoires et de Torah qui ont été décimées. Et une partie de ce roman parle des plaines, qui sont les lieux d'extermination, de mort. Comment vous a été transmis cette histoire, René Friedman, puisque vous parliez tout à l'heure du rapport oral à la transmission? L'histoire de la Seconde Guerre mondiale, comment est-ce qu'elle vous a été racontée?
Ben, d'abord parce que ma famille l'a vécu. Et moi, je suis né pendant la guerre, mais évidemment, j'ai pas de souvenirs directs, mais j'ai baigné là-dedans. D'abord parce qu'on a perdu un certain nombre de personnes de ma famille, que mes parents ont une chance folle de pouvoir survivre grâce à la générosité de personnes qui ont été nommées justes devant les nations du fait de leur engagement à les protéger, à nous protéger. Donc voilà, c'est tellement naturel quand vous êtes dans une famille qui survit et qui en même temps ne voulait pas aveugler, ça s'appelle à pas aveugle de par le monde, ne voulait pas aveugler ses enfants de cette histoire, mais en même temps voulait la transmettre.
Un peu. Ne pas aveugler, c'est-à-dire que, que le trauma peser, ne recouvre voilà, pas tout, quoi.
Le faire peser le poids insoluble. Donc voilà, tout ça était très, très naturel, quoi.
Et est-ce qu'il y a eu une autre manière d'aller vers cette histoire-là, ou de l'étudier, par la lecture? Est-ce que vous avez eu un intérêt particulier pour les textes historiques ou romanesques qui se rapportent à la Seconde Guerre mondiale?
Oui, ou par rapport justement plutôt à la littérature, d'une littérature qui était pas évidente au premier point, mais qui s'est révélée extrêmement riche et que j'ai découvert finalement.
Vous pensez à quoi?
Je pense à Bashevis Singer, je pense à Belle du Seigneur, je pense à voilà, je pense à des livres qui étaient une base très créative de cette période, avec beaucoup d'auteurs qui sont mal connus, même de moi d'ailleurs, pour parler clair.
Dans ce livre-là, Leib Rochman, il y a aussi l'idée d'une histoire dans une histoire, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que c'est chaque espace qui lance une sorte de nouvelle histoire, c'est ça?
C'est-à-dire qu'en fait, je trouve quand on le lit, c'est une espèce d'atmosphère qui emplit tout, tous les détails, c'est comme un ouragan. Enfin, c'est une description de mots et de. C'est même pas une histoire. C'est un ressenti d'un vécu ou des vécus qui se mêlent. C'est très particulier, je trouve, comme lecture.
Ça donne envie, en tout cas.
Ça donne envie.
Exactement.
J'espère.
Ça veut dire aussi que dans votre rapport à la littérature et au roman, vous n'êtes pas forcément attaché à l'idée d'un personnage, une intrigue que vous pouvez complètement vous laisser emplir par autre chose que « on me raconte une histoire ».
Oui, mais parce que peut-être aussi c'est une sensibilité à la poésie. La poésie, c'est pas une histoire, hein. c'est que d'une succession de sensations qui fait vibrer ou pas. Oui, je suis sensible à ça.
Vous savez depuis quand vous avez toujours été sensible à la poésie?
Je sais pas, c'est cette sensibilité dont je parlais tout à l'heure, un peu des mots, des sens des mots, des découvertes, des mots nouveaux, cette pléiade de mots nouveaux qui existent à côté. Et qu'on découvre parfois, on a
à
la chance.
C'est-à-dire...
À côté de soi, c'est-à-dire qu'on les utilise pas. On les utilise pas, mais on les découvre de temps en temps, comme il y en a certains d'ailleurs dans les poèmes que je vais vous lire tout à l'heure, qui sont des découvertes. Encore aujourd'hui. Je suis loin de connaître tout mon dictionnaire.
Vous voulez qu'on passe à la poésie, justement? Ou vous aviez envie d'un autre ordre? Parce que je vois Aragon qui nous fait de l'œil juste devant, mais...
C'est le cas de le dire, puisque c'est les vieux d'Elsa. C'est le cas de le dire. Alors, Aragon, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un énorme créateur. Que j'ai connu à la fin de sa vie, mais...
Connu au sens?
Au sens rencontré, dans certaines réunions... puisqu'il c'était un militant communiste et moi j'étais un jeune étudiant contestataire. Donc,
ça faisait une belle rencontre.
C'est pas vraiment une rencontre, faut pas exagérer, mais c'était une
confrontation.
Oui, c'était comme ça, une confrontation qui était un peu donnée. Mais je trouve que, enfin, son parcours entre le surréalisme, la créativité de ses romans, son engagement, le fait que pendant la guerre, il a justement été très actif dans la résistance, il s'est pas caché comme certains, et surtout sa créativité. Et c'est vrai que sa poésie est assez fabuleuse. Enfin, je la trouve assez fabuleuse, et particulièrement les yeux d'Elsa, qui sont peut-être une des poétiques les plus connues, mais qui reste quand même à la relecture quand on fait attention au choix des mots et au sens des mots assez remarquable.
Vous lisiez quoi quand vous étiez un étudiant contestataire, René Friedman?
Qu'est-ce que j'ai... Ouais, je lisais un pas en avant, deux pas en arrière de Lénine, je lisais sur Léon Trotsky, je lisais sur
Mao Tse-tung. Vous lisiez vraiment les textes politiques, ouais.
Alors, soit les textes, soit sur, sous les commentaires. Mais il y avait déjà pas mal de textes à lire. Donc j'ai fait les trois grands. Pas Staline, non, quand même pas.
Et vous aviez une... Enfin, ça vous a laissé des bons souvenirs, cette époque-là?
Fabuleuse.
Ouais.
Fabuleuse, parce qu'on s'est complètement gouré. On s'est vraiment trompé, mais on était emballé. Voilà.
Ah, mais c'est marrant parce qu'il y a aujourd'hui, justement, plusieurs personnes, notamment écrivains, des hommes, qui écrivent sur cette période-là avec des illusions, en pointant la désillusion, en pointant l'erreur. Mais vous pointez plutôt la fougue.
Non.
Enfin,
oui,
vous pointez et l'erreur et la fougue.
C'est-à-dire que je comprends la fougue parce que c'était une période où les idéaux étaient très forts au sortir justement de la sombritude de la période de la guerre. Et donc toute cette génération s'est jetée sur des espoirs qui se sont révélés faux. Alors ça, c'est autre chose.
Bien sûr. Oui.
Mais ce qui était assez génial, c'était les rencontres, les emballements, les mythes et les croyances. Ensuite, c'est la désillusion, mais la désillusion, elle peut être aussi constructive. Elle est importante pour soi, de faire la part des choses, et puis aussi dans la transmission. Mais tout n'est pas... C'est-à-dire, les idéaux restent intéressants à chatouiller. La réalisation, on se rend compte que c'est quand même un peu plus difficile. Mais ça n'empêche pas que sans idéaux, on ne vit pas.
Donc Aragon, mais le poète plus que
Aragon,
le militant.
Le poète. Ouais. Et surtout l'amour fou.
Ouais.
L'amour fou, parce que quand même, ce lien pendant des années entre ces deux personnes...
Donc avec Elsa Triolet.
Avec Elsa Triolet, qui était donc la belle-sœur de Maïkovski, hein, je veux dire, puisque sa sœur était mariée avec lui. C'est quand même une histoire assez remarquable, alors qui est peut-être aussi un peu romancée, un peu
ça
propulsée.
Ça fait partie de l'histoire d'amour.
Ça fait partie des histoires d'amour, mais ça fait aussi partie des histoires politiques. Peut-être que ça a été mis en avant d'une certaine façon par un certain parti qui en faisait des héros, qui n'étaient peut-être pas aussi héros qu'ils l'ont été. Mais néanmoins, la lecture, c'est quand même quelque chose. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Si je t'ai à mourir, tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. À l'ombre des oiseaux, c'est l'océan troublé, puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent. L'été taille la nue au tablier des anges, le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés. Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur, tes yeux plus clairs que lui, lorsqu'une larme y luit, tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie, le vert n'est jamais si bleu qu'à sa brisure. Mère des sept douleurs, aux lumières mouillées, sept glaives ont percé le prisme des couleurs, le jour est plus poignant, qui point entre les pleurs, l'iris troué de noir, plus bleu d'être endeuillé. Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche, par où se reproduit le miracle des rois, lorsque le cœur battant ils virent tous les trois, le manteau de Marie accroché dans la crèche. Une bouche suffit au mois de mai des mots, pour toutes les chansons et pour tous les hélas, trop peu d'un firmament pour des millions d'astres, il en fallait tes yeux et leurs secrets gémeaux. L'enfant accaparé par les belles images écarquille les siens moins démesurément. Quand tu fais tes grands yeux, je ne sais si tu mens, on dirait que l'averse ouvre des fleurs sauvages. Cache-t-il des éclairs dans cette lavande, où des insectes défont leurs amours violentes? Je suis pris au filet des étoiles filantes, comme un marin qui meurt en mer en plein mois d'août. J'ai retiré ce radium de la pêche blonde, j'ai brûlé mes doigts à ce feu défendu, au paradis cent fois retrouvé perdu, tes yeux sont mon Pérou, ma Golconde, mes Indes. Il advint qu'un beau soir, l'univers se brisa sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent. Moi je voyais briller au-dessus de la mer les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce poème de Louis Aragon, René Friedman ?
Ce qui me plaît dans ce poème, c'est un amour pur, enfin qui se concentre sur l'éclat du regard, sur les yeux d'Elsa, les bleus, avec du bleu un peu partout, mais rien ne vaut le bleu des yeux d'Elsa. Et finalement, c'est cette créativité des mots aussi qui se lie dans ce sentiment entre deux personnes. Elle lui répond pas, mais on voudrait
pas
bien.
Pas là, en tout cas.
Pas là, en tous les cas, on voudrait bien. Ouais. C'est vraiment intériorisé, arraché à la vie quotidienne. C'est en surface. Ça passe entre ciel et terre. C'est un grand firmament, quoi.
C'est un recueil qui paraît, donc Les yeux d'Elsa, c'est à la fois le titre du poème que vous avez lu et le titre du recueil. Initialement en 1942,
on est pile dedans, oui.
On est à la fois pile dans la Seconde Guerre mondiale et un an avant votre naissance puisque vous avez...
Ouais. C'est assez étonnant qu'il ait écrit des poèmes d'amour tout en étant...
Est-ce que c'est tellement étonnant?
Oui, enfin, je sais pas, il y a une espèce de croyance, de certitude sur le côté bon et positif de l'homme, alors qu'on est dans le noir. On est quand même en 42, et 42, il y a quand même le tunnel, il est quand même assez bouché. Et pourtant, c'est peut-être cet amour qui le fait vivre, qui le fait agir, qui le fait, et les autres aussi. On est toujours étonné que comment des héros sont si simples. Et si naturel. Donc en fait,
en tout cas, si amoureux.
Donc je suis amoureux. Je porte cet amour au nu et je combats l'ignominie.
Ça va ensemble. Enfin, c'est-à-dire que comme
pas tout le monde.
Non, mais je me souviens moi, par exemple, avoir été étonnée d'apprendre que au cœur de la Seconde Guerre mondiale en France, il y avait des balles. Les gens dansaient. C'est très étrange comme la vie, l'élan. Côtoie l'horreur.
C'est tout le temps comme ça. C'est pas toujours les mêmes personnes.
C'est pas toujours les mêmes personnes.
Des fois, ils cohabitent et des fois, ils s'entrechoquent. Mais même au sein d'une personne, il peut y avoir... Et d'ailleurs, souvent, il reste peut-être peu de moments à vivre. C'est un engagement. Et en fin de compte, on y va.
Ça rend tout incandescent,
ça rend tout en échange, et on a envie d'amour en même temps pour les heures qui restent peut-être à vivre ou peut-être pas.
Votre troisième choix s'est porté sur quoi ?
Mon troisième choix s'est porté sur Édouard Glissant.
Allez.
Alors, Édouard Glissant, d'abord, je l'ai bien connu. J'ai eu cette chance.
Plus qu'Aragon.
Ah, beaucoup plus qu'Aragon. Et Édouard Glissant, c'est quelqu'un qui m'a toujours fasciné parce que, d'abord parce que ses mots, ses écrits sont d'une telle générosité, créativité, que c'est absolument étonnant. Ses poésies aussi. Boise en particulier est un bouquin qui m'a toujours sidéré quelque part dans cette juxtaposition de mots qu'on ne comprend pas toujours. Parce qu'il parle créole ou il invente des mots, mais on comprend le sens. Mmh. C'est assez génial. Et c'était quelqu'un qui écrivait n'importe où, ou toute part, dans le train, dans le métro. Il faisait abstraction du monde et se concentrait sur ce qu'il avait envie d'écrire à ce moment-là.
Vous aussi ? Vous écrivez plutôt partout ?
Non, pas du tout. Moi, il me faut le silence et la concentration qui n'est pas toujours au rendez-vous. Mmh. Non, j'ai un mal fou à écrire.
Ah oui ? Mmh. Et pourtant, vous avez écrit ?
Oui, j'ai pas mal écrit, mais c'est un arrachement. Mmh. C'est un arrachement parce que c'est difficile, c'est une reprise, je reprends 100 fois. Voilà, j'ai pas du tout la facilité de l'écriture, comme je peux avoir un peu plus la facilité de la parole.
Mais ça veut dire que, en contrebalancement de la difficulté ou du déplaisir de l'écriture, il y avait quoi ? Il y avait la nécessité de transmettre, la nécessité de dire, de raconter. Il fallait que ce soit suffisamment fort pour vous taper le mauvais côté de l'affaire, quand même.
Oui, ben là, on va y venir dans la dernière partie. C'est quand même la partie que j'ai un peu apportée en médecine.
Bah oui.
Et donc, effectivement, une envie de la transmettre. Mmh. Donc, d'ailleurs, l'histoire est assez drôle. C'est que la première fois qu'on m'a proposé, qu'une éditrice qui s'appelle Marencel m'avait proposé un livre, que moi, je pouvais pas écrire, me propose quelqu'un qui va écrire pour moi. Et je lis le premier chapitre, et là, c'est l'horreur absolue. C'est-à-dire, je me retrouvais pas du tout. Mmh. Et c'est là que j'ai décidé de prendre la plume, plusieurs fois, pour le même mot, mais enfin bon... pour que ça colle beaucoup plus à ce que je ressentais, à ce que j'avais envie de faire passer, qui ne sont pas des romans, hein.
Non,
c'est quand même des histoires. Ouais. C'est des histoires, mais c'est pas des romans. Pas l'écriture. Alors, revenons-en à Glissant, qui a cette créativité absolument extraordinaire.
Attendez, on n'a pas dit ce qu'on lisait.
Exactement.
Tout le monde,
le roman fondateur, et aussi dans l'idéologie qu'il contient, puisqu'il va considérer que il y a l'universalité qui aujourd'hui est remise en question par pas mal de gens, l'universalité tout en maintenant la différence des peuples, des populations, en particulier bien sûr ceux qui ont été émigrés de force, mais c'est toujours cette diversité qui se mêle dans l'unicité de l'humain. Et c'est ça qui m'a toujours plu dans cette créativité. Les temps démondés qui vous ont ainsi charroyé, vous avez l'habitude. Voilà-t-il pas ainsi qu'ils vous jettent dans le charivari de pays tout au loin, où vous voyez partout des Martiniques ? Alors, quittant cette musique du pleurer pour rire, vous n'avez plus qu'à suivre le vent tout au long des glycérias et des filao, et vous coulez avec lui sur des pailles, les tuiles, les tôles, où il brûle comme un canari sur un boucan. Et quoi ? Vous défilez le fil et déroulez l'histoire tout en longueur, et vous alignez ce qui se passe à travers le pays. Vous entassez la journée sur la nuit, les criez sur les paroles, et à nouveau vous dévidez les histoires tout au long de ce fil sans fin. Mais soudain, vous tombez dans le virage du monde, votre parole à ce moment-là s'enroule en vertige, vous balancez, vous tremblez. Alors encore, vous entendez ces langages du monde qui se rencontrent sur la vague, le mont, toutes ces langues qui fracassent l'une dans l'autre comme ces crêtes de vagues en furie, et vous entreprenez de bondir d'une langue à l'autre. Ça fait de grosses dévirades d'imprévus. Puis vous coulez dans ce mystère des mots, et voilà que vous quittez la débandade. Et vous défilez comme une rivière à sec dans le secret de son partage de rivière. Alors là, pas un applaudit, vous êtes seul à descendre. Vous entamez d'avertir ce qu'on vous appelle un style. Et alors enfin, vous tournez la parole non plus comme un fil, mais comme un tourbillon. Et avec tout ce vent et toute cette fumée, vous convoquez la tempête, un cyclone qui débâcle, sans déraciner. Là, vraiment, vous imaginez le monde alentour.
Cet extrait du texte Le Tout Monde d'Edouard Glissant, moi je trouve que ça renvoie à ce que vous avez dit très rapidement et un peu en passant tout à l'heure. Deux choses quoi, à la fois c'était difficile d'écrire la langue française et en même temps j'ai toujours eu un très grand appétit pour les langues. Et ce que dit Glissant là, quand il développe sa pensée archipélique et la mise en relation comme ça des particularités, des singularités, il le dit à propos des langues. Mais comment vous expliquez que vous avez eu tant cet appétit pour les langues, René Friedman ?
Je sais pas, c'est un appétit vers l'universel, vers la découverte. J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance d'aller dans beaucoup de pays. Je sais pas, parce que j'avais envie de découvrir justement l'immensité humaine, la variabilité, la variété humaine. Donc j'étais dans tous les continents, à porter la bonne parole médicale à un moment donné, mais puis j'ai vu d'autres engagements, à Médecins Sans Frontières, tout ça. Donc j'ai toujours été attiré par la diversité humaine et l'unicité humaine.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Finalement, la médecine, ça pousse à penser ça quand même. Ça pousse à penser le très particulier et le très ressemblant, quoi.
Ben oui, et puis c'est surtout que tout le monde peut être atteint. Les maladies font pas de distinction et pourtant tout le monde réagit différemment. Donc il y a en même temps ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la particularité, et en même temps la singularité et en même temps l'universalité.
Ce qui est aussi une chose qui se... peut-être qui est encore plus prégnant pour ce qui vous a beaucoup occupé, à savoir les naissances. Peut-être n'entrons pas dans le chapitre des naissances médicalement assistées, mais une naissance, c'est à la fois tout le temps la même chose et absolument jamais la même chose, René Friedman.
C'est exactement ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, d'ailleurs, j'avais, avec Alain Épelmoin, fait une exposition, été commissaire d'exposition sur la naissance au Musée de l'Homme, avant qu'il ne fasse ses travaux, parce que on cherchait à montrer l'unicité, un être humain
se... Un invariant, un peu, quoi.
Voilà, un être humain se fait de la même façon ici ou là, et pourtant il est différent, il est accueilli différemment, il a des différences, il peut avoir des grosses différences... Et pourtant, c'est cette unicité-là. C'est ça qui est fascinant, c'est comment la culture colle à cette universalité pour en faire en même temps un épisode différent.
Il y a la culture, mais il y a aussi à vous lire et à vous écouter, et en écouter d'autres, l'idée qu'il y a le très singulier du corps, de la personne qui met au monde un bébé. Enfin, à chaque fois, il y a quelque chose qui se conjugue vraiment au singulier, René Friedman.
Vous savez, dans cette position que j'avais d'être témoin des moments dont on se rappelle toute sa vie, qui sont les moments de naissance pour une femme et pour un homme, s'il est présent, j'ai pas écrit les yeux d'Elsa parce que je sais pas écrire, mais j'aurais pu écrire les yeux d'une femme qui donne naissance. Parce qu'en fait, j'aimais regarder la naissance dans les yeux de la femme qui accouche. Parce que il y a à un moment donné, une bascule qui fait que il y a un avant et un après. Et tout se passe dans le visage et particulièrement dans le regard, dans l'expression des yeux. Et c'est vrai que ça, c'est singulier et en même temps, c'est universel. C'est un moment qui dure qu'un instant, vraiment. Et quand vous êtes accoucheur, vous savez qui va se passer cet instant-là. Vous savez exactement. Elle ne le sait pas, elle lui ne le sait pas. Et pourtant, vous vous préparez à voir ce changement total du visage, parce que voilà, il y a une transformation radicale jusqu'à la fin des temps.
On en est au quatrième texte.
On en est au quatrième texte, et ça va être un texte que j'ai choisi de Gustave Flaubert. Toujours un peu dans cette continuité de termes extravagants ou d'abondance des mots et des descriptions qui m'ont toujours fasciné. C'est vrai que Flaubert, Salammbô, enfin, il y a de quoi rouler, quoi.
Mais c'est vrai qu'on s'est pas attardé sur tous les mots qui sonnent, en effet, étonnants à notre oreille dans le texte d'Edouard Glissant, mais il y en avait plein.
Surtout des créativités, mais c'est vrai que ça invite à lire ses poésies et surtout tout le monde, quoi. Mais ses poésies boisent, moi je recommande dans tous les cas.
Alors Flaubert.
On est sur l'histoire du festin de Salammbô. Donc avec des mercenaires qui essayent de prendre Carthage et les armées d'Amilcar, qui est le père de Salammbô, qui va essayer de former ses troupes. Il y avait des hommes de toutes les nations, des Ligures, des Lusitaniens, des Baléares, des Nègres et des fugitifs de Rome. On entendait à côté du lourd patois dorien retentir les syllabes celtiques bruissantes comme des chars de bataille, et les terminaisons ioniennes se heurtaient aux consonnes du désert, âpres comme les cris de chacal. Le grec se reconnaissait à sa taille mince, l'égyptien à ses épaules remontées, le cantabre à ses larges mollets. Des cariens balançaient orgueilleusement les plumes de leurs casques, les archers des Cappadoces s'étaient peints avec des jus d'herbe de larges fleurs sur le corps, et quelques Lydiens, portant des robes de femmes, dînaient en pantoufles et avec des boucles d'oreilles, d'autres qui s'étaient par pompe barbouillées de vermillon, ressemblaient à des statues de corail. Ils s'allongeaient sur les coussins, ils mangeaient accroupis autour des grands tableaux, ou bien, couchés sur le ventre, ils tiraient à eux les morceaux de viande et se rassasiaient, appuyés sur les coudes, dans la pose pacifique des lions lorsqu'ils dépècent leur proie. Les derniers venus, debout contre les arbres, regardaient les tables basses disparaissant à moitié sous les tapis écarlates et attendaient leur tour. D'abord, on servit des oiseaux à la sauce verte, dans des assiettes d'argile rouge, rehaussées de dessins noirs, puis toutes les espèces de coquillages que l'on ramasse sur les côtes puniques, des bouillies de froment, de fèves et d'orge, et des escargots au cumin sur des plats d'ambre jaune. Ensuite, les tables furent couvertes de viande, antilopes avec leurs cornes, paons avec leurs plumes, moutons entiers, cuits au vin doux, gigots de chamelle et de buffle, hérissons au garum, cigales frites et loirs confits. Voilà, ça continue comme ça, c'est tout un grand poème, je trouve, d'une richesse incroyable. Ça m'a plu de relire ce passage.
Il y a encore cette idée-là quand même de la très grande diversité, quoi. La très grande diversité des langues, des sons, des hommes venus de toutes parts, puis ensuite des mets.
Oui,
ça revient dans ce que vous racontez, René Friedman.
C'est le passage, par exemple, avec les couleurs, c'est ça qui me... En plus... sur les sauces, sur les aspects, tout ça. Alors, c'est vrai que, bon, comme vous voyez, je suis entouré de tableaux de couleurs. Ma femme est peintre. Donc, je vis depuis longtemps dans l'importance des couleurs. Mmh. Et c'est vrai que j'ai retrouvé dans Salammbô, alors, aussi bien dans tous les écrits, hein, je veux dire, les dessins d'Orient. On est à une période, à la fin du 19e siècle, on découvre l'Orient. Et on découvre les couleurs. Donc, c'est vrai que Flaubert connaissait Delacroix, que Delacroix a fait ses énormes tableaux de peinture. Époustouflant aussi, quelque chose qui est, qui est extrêmement riche, quoi, et qui se superpose, cette superposition, et en même temps cette diversité, et en même temps cette universalité. Mmh. Et c'est vrai que je retrouve dans Salammbô, et dans Flaubert en général, ce mélange et cette joie des couleurs que je vis... assez quotidiennement grâce à son compagnonnage.
Oui, parce que en vous écoutant précisément, il se trouve que je fais face à une très grande toile. Alors je ne sais pas si c'est une toile de votre femme, ouais. Et je me disais, et vraiment en vous écoutant, je me disais ah mais c'est quand même quelque chose de vivre avec mais de beau, avec du verre comme ça. Je sais pas, il y a une très grande surface de verre. Ça doit être un tableau qu'on peut pas enlever.
Ah oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, bien sûr. Ben, c'est-à-dire que moi, c'est difficile. Ça fait des dizaines d'années que je suis dans les couleurs changent, les formes changent, les expressions changent. Mais il y a toujours là aussi une permanence lyrique, hein, d'une. Et puis, c'est la vie colorée. C'est la vie colorée. C'est grâce à elle. C'est la vie colorée.
Dernier choix. Simone de Beauvoir.
Oui, Simone de Beauvoir, bien sûr. Pour un gynécologue, c'est difficile de pas être sensible à ce qu'elle pense de la femme. Ou alors on passe à côté de quelque chose d'important. Et ma génération a été sensibilisée à cette découverte de l'autonomie de la femme. Et
son... Enfin, découverte par certains, parce qu'il y a pas mal de femmes qui étaient au courant de leur propre autonomie avant.
Enfin, quand on lit, alors, puisque vous faites état de la littérature, il y a quand même, bien sûr qu'il y a des femmes qui ont manifesté leur autonomie, mais je veux dire, chaque femme, les écrivains, que ce soit George Sand, que ce soit Dargaud, tout ça, mais chaque femme s'est sentie enfin, progressivement de plus en plus autonome avec la découverte de la contraception, avec l'accès à l'IVG, avec la possibilité de décider ou pas de vouloir un enfant. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont récentes et qui vont vers cette autonomie et qui ont remis en question, finalement, là on est en anticipation, mais le rapport médecin-patient et surtout médecin-patiente, avec des excès, des erreurs, avec des violences qui sont faites parfois et qui sont dénoncées aujourd'hui, mais aussi une compréhension et une volonté de laisser la femme et l'homme autour du phénomène de la naissance ou autour de sa constitution physiologique, en tout cas respirer une autonomie. Et ça, c'est vrai que, d'ailleurs, dans le passage là que je vais lire de Simone de Beauvoir, qui a écrit bien sûr Le deuxième sexe, on retrouve des choses très contemporaines. La femme, c'est bien simple, disent les amateurs de formules simples. Elle est une matrice. Un ovaire, elle est une femelle. Ce mot suffit à la définir. Dans la bouche de l'homme, l'épithète femelle sonne comme une insulte. Pourtant, il n'a pas honte de son animalité. Il est fier, au contraire, si on dit de lui, c'est un mâle. Le terme femelle est péjoratif. Non parce qu'il enracine la femme dans la nature, mais parce qu'il la confine dans son sexe. Et si ce sexe paraît à l'homme méprisable, et ennemi même chez les bêtes innocentes, c'est évidemment à cause de l'inquiète hostilité que suscite en lui la femme. Cependant, il veut trouver dans la biologie une justification de ce sentiment. Le mot femelle fait lever chez lui une sarabande d'images. Un énorme ovule, rond, âpre et châtre, le spermatozoïde agile. Monstrueuse et gavée, la reine des termites règne sur les mâles asservis. La mante religieuse, l'araignée repue d'amour, broie leur partenaire et le dévore. La chienne en rut court les ruelles, traînant après elle un signage d'odeur perverse. La guenon s'exhibe imprudemment et se dérobe avec une hypocrite coquetterie. Et les fauves les plus superbes, la tigresse, la lionne, la panthère, se couchent servilement sous l'impériale étreinte du mâle. Inerte, impatiente, rusée, stupide, insensible, lubrique, féroce, humiliée, l'homme projette dans la femme toutes les femelles à la fois. Et le fait qu'elle est une femelle, et si l'on veut cesser de penser par lieu commun, deux questions aussitôt se posent. Que représente dans le règne animal la femelle, et quelle espèce singulière de femelle se réalise dans la femme? Alors, voilà, c'est un chapitre qui s'appelle « Les données de la biologie », donc je ne pouvais pas évidemment le louper dans cette réflexion qui dépasse bien sûr les données biologiques, mais qui aujourd'hui... permettent de voir la particularité, là aussi, de l'être féminin par rapport à la particularité de l'être masculin, mais nécessitant les deux si on veut aborder leur conjugaison, en particulier par le désir de naissance ou pas.
Est-ce que René Friedman, par le métier que vous avez exercé, donc l'obstétrique, la gynécologie et tout le travail que vous avez fait autour de la naissance, vous vous êtes rendu particulièrement, en tant que lecteur, curieux? Justement, donc le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, c'est 1949, et puis ensuite il y a voilà une espèce d'ouverture de publications, de textes de plus en plus nombreux, et aujourd'hui 2025, de textes très nombreux sur l'expérience du corps féminin, du rapport au corps féminin, bon, même des questions de genre qui bougent. Est-ce que vous êtes rendu particulièrement attentif à ces questions-là, théoriquement, je veux dire?
Oui, particulièrement sensible en rapport quotidien avec l'expression corporelle d'un sentiment féminin, qui est celui de « je veux pas, je veux comme ci, je veux comme ça, je souhaite, j'ai mal ». Et on méprise plus, on comprend, on écoute. C'est un métier qui est au contact des femmes et des hommes, mais surtout quand même des femmes. dont on s'occupe manuellement, avec la chirurgie, avec avec les accouchements, avec la fécondation in vitro. Donc c'est vraiment une on est au cœur du système et en même temps on le regarde avec un éclairage que Simone de Beauvoir, entre autres, a permis, c'est-à-dire de bien distinguer que c'est pas une propriété, que c'est pas un objet, que c'est un sujet qui a son propre déroulé, son propre sa propre volonté. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'on peut retirer, ce lien qui se fait entre ces découvertes scientifiques et cette littérature, c'est le respect. Le respect de l'autonomie, le respect et l'écoute que, en particulier un médecin, un soignant, doit avoir par rapport à sa patientèle, tout en sachant qu'il a, je veux dire, à donner son avis et ne pas suivre forcément les desiderata qu'on lui exprime. Ça, c'est un autre rapport, un autre sujet entre la décision médicale et la décision qui est demandée. Mais c'est vrai qu'on rentre dans une médecine qui est ce qu'on appelle une médecine du désir, et donc par là même nécessite une vision beaucoup plus vaste que la description d'un organe ou d'un fonctionnement particulier, qui est celui de l'appréhension plus holistique d'une personne dans sa totalité, dans son histoire, éventuellement dans le transgénérationnel et dans ses projections. Et ça mérite une littérature.
Merci beaucoup, René Friedman, de nous avoir ouvert votre bibliothèque.
Merci à vous.
À la prise de son aujourd'hui, c'était Frédéric Cailloux. Au mixage, Alexandre Dang. Et à la réalisation de cet épisode, Vivien Demeyer. Pour retrouver la liste des textes évoqués par René Friedman, rendez-vous sur la page du Book Club franceculture.fr. C'est aussi sur cette page que vous pourrez retrouver la totalité de nos portraits de bibliothèque. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club.
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots « journal intime », ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet,
première rencontre avec les Khmers Rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les mères.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Gross. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.